Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour, c'est un nouveau Antiquissimo bien sûr, et une émission à la fois inédite puisque c'est une émission chorale, je vais l'expliquer dans un instant, et puis en même temps on est toujours dans cette vieille tradition qui dit qu'on fait du nouveau avec de l'ancien, et vous en allez avoir la démonstration parfaite avec donc mes invités qui sont trois et que nous allons tour à tour présenter. En expliquant bien sûr les liens qu'ils ont les uns avec les autres et avec cette émission Antiquissimo. Alors cette émission va parler, c'était déjà le cas à plusieurs reprises, d'une collection qui est formidable et que je recommande à chaque fois, les petits latins qui se sont doublés des petits grecs. Et pour cette émission, donc un beau cœur puisque nous aurons Laure de Chantal que je salue.
Bonjour.
Nous aurons aussi à ses côtés, même si géographiquement ça n'est pas tout à fait le cas, Adrien Bresson. Bonjour Adrien.
Bonjour, enchanté de faire votre connaissance.
Eh bien, nous sommes tous enchantés de partager cette émission. Et enfin, Dorian Flores, le troisième compère. Bonjour Dorian.
Bonjour.
Alors, une émission, disais-je, consacrée à un ouvrage tout nouveau, tout beau, qui s'appelle Psyché et Cupido, Psyché et l'amour, dans la collection, je l'ai dit, Les Petits Latins, La vie des classiques. Et tout d'abord, je me tourne vers Laure de Chantal, qui est à l'initiative de cette collection. Alors, Laure de Chantal anime, nous la connaissons, puisque nous l'avions accueillie lors d'un forum du livre Péplum. C'est une normalienne agrégée de lettres classiques qui dirige beaucoup de collections aux belles lettres et donc plus particulièrement celle-ci dont on va parler. Je signale dans les ouvrages, elle en a écrit beaucoup, hein, mais que nous avions beaucoup apprécié La mythologie par les plantes en 2016 et beaucoup plus récemment, 2023, Les neuf vies de Sappho. Donc beaucoup d'activités pour Laure de Chantal qui n'arrête pas de travailler. Et la question que je vais lui poser, c'est comment et quand a-t-elle eu cette idée de créer cette collection ?
Eh bien, elle vient de très longtemps en fait, si on doit reprendre l'archéologie de la chose. Donc quand je faisais mes études, il était de coutume, hein, en classe prépa,
et
ou
oui.
Même... dès le lycée, de faire ce qu'on appelait du petit latin. Et donc moi, j'ai découvert ça en classe préparatoire. J'arrivais de ma province, qui n'est pas très loin de la vôtre, hein, parce que je venais de Montpellier.
Oui, je m'en souviens.
Et, mon professeur de latin, dans un lycée très prestigieux, parisien, nous dit qu'il fallait faire du petit latin. Et je ne savais pas ce que c'était, et je n'osais pas demander, vous voyez, en timidité. Et je me suis retrouvée avec une autre comparse qui était dans le même cas, et puis on s'est renseignées, et on a découvert toutes les deux qu'en fait, faire du petit latin, c'était simplement lire, c'est-à-dire avec le texte en latin ou en grec, et à côté, la traduction, ce qui permet de lire en regard, ce qui donne une qualité de lecture et de fréquentation des textes tout à fait particulière, parce que vous travaillez sans dictionnaire, avec beaucoup d'intuition et donc en fait avec beaucoup d'intelligence. Et c'était à un moment où dans la journée, vous voyez, journée de
labeur, oui.
Ben voilà, qui ne sont pas très drôles, ce moment de petit latin, de partir et puis de retrouver pour moi ma Méditerranée, de partir avec Virgile ou avec Homère dans ces textes-là, c'était vraiment le moment de bonheur. Et par la suite, ben, quand je me suis tournée vers l'édition et que j'ai eu la chance de pouvoir travailler aux belles lettres, j'ai découvert en fait tous les textes de la collection Guillaume Budet que je ne connaissais pas jusque-là, on n'en connaissait que les plus fameux. Et donc, comme j'avais à faire les résumés des notices des Budet, hein, des livres de la collection CUF, pour le site internet, et donc il fallait lire très très vite, je me suis retrouvée finalement à faire énormément de petits latins, de petits grecs aussi à ce moment-là, en début de carrière aux belles lettres. Et puis, c'est une habitude que moi j'ai conservée et je me suis aperçue que chez les, on va dire, les nouveaux latinistes et nouveaux hellénistes, ce n'était plus guère possible parce que, ou alors ça arrivait très très tard en fait dans la scolarité,
Et oui.
même pour ça arrivait un peu tard, vous voyez, après le bac, parce que en fait, ben, il faut avoir quand même un petit niveau de latin, quoi, pour, ou de grec pour arriver à faire ça. Et finalement, ben, quand vous avez une heure par-ci, une heure par-là, et que chaque année, il faut tout recommencer parce que le prof a changé, le programme a changé, et globalement, il y en a toujours de moins en moins, ça devient vraiment la portion congrue. Mais finalement, ce plaisir de lire tout un livre en latin, ou tout un chant de Virgile, ou tout, des passages d'Homère et tout, il n'arrive plus. Et cette rupture de la transmission me semble déjà très, très, enfin, très triste.
Bah oui,
quoi,
bien sûr.
Ça sert à quoi d'étudier ces langues-là si on n'en goûte pas l'intérêt, quoi, l'idée d'être soi face à un texte, et puis d'instaurer une connivence avec le texte ou avec l'auteur. Donc l'auteur, ça va être un auteur qui a vécu il y a tellement de temps, et d'arriver à se retrouver et de faire marcher son intelligence propre, pas un dictionnaire, un cours, une traduction ou ceci. Je trouve que c'est vraiment très, très important. D'où cette idée de faire des textes en latin un petit peu plus faciles avec la traduction juste à côté. C'est arrivé à un moment où Pascal Charvet est venu nous voir aux belles lettres avec toute une équipe de professeurs, d'enseignants, qui eux faisaient ça dans leur classe, qui écrivaient des textes tout en latin, mais en latin facile. Donc on va dire en latin contemporain, quoi. Et finalement, eux voulaient faire des textes avec que le latin, et puis... que le latin et puis les mots de vocabulaire, comme il se fait dans d'autres pays.
Oui, ça, c'était plutôt banal.
Bah, ça ne l'aurait pas été en France, parce que personne ne le faisait vraiment. Et puis, surtout, c'était contre la précédente directive qui avait été donnée de toujours prendre les textes d'auteur. Et finalement, moi, j'ai ajouté cette touche en plus, si vous voulez, vraiment belle lettre, qui est le texte en regard pour avoir le plaisir de lecture, mais aussi pour que des gens qui n'ont pas fait de latin, mais qui hésitent un peu et tout, puissent avoir entre les mains un ouvrage où c'est du français avec de la mythologie,
oui.
des histoires. Sur certains textes, bien souvent, ça va être que la seule source un peu complète hein, sur un sujet. Je pense notamment en grec sur Athéna. Bon, si vous voulez toute l'histoire d'Athéna, finalement, comme elle est un peu partout dans la mythologie, vous n'avez que ce, et qu'aucune grande autrice type Madeleine Muller n'a encore écrit de roman dessus. Il vous faut, avec ce texte-là, vous avez toutes les histoires d'Athéna quoi, dans un seul livre. Donc il y avait ça, et toujours aussi parce que, j'ai, en tant imprégnée, on va dire, de... l'esprit belles-lettres. Il me semble aussi que ce type de lecture, donc conforme à la lecture en regard Guillaume Budé, est aussi un très bon moyen pour amener vers les textes de l'Antiquité. Déjà parce que finalement, ça va être construit pareil. Donc après, on va avoir fabriqué, on va dire, un petit peu pareil. Donc quand on va être face à un Budé avec de la lecture en regard et tout, on va y être préparé. Et puis aussi parce que bien souvent, dans ces petits latins et ces petits grecs, vous retrouvez des petits des suites atomiques, on va dire, des particules, des éléments de phrase d'auteurs, de Sappho, de Virgile, de Homère.
Oui. Et puis vous insérez beaucoup de...
On peut, doucement, avec ce type de lecture, on va arriver à ces textes et avoir un petit florilège de citations... Qui n'est pas dérisoire.
Alors tout ça, ça a donné pour l'instant 22, celui-là c'est le 23e, et puis il y en a beaucoup d'autres qui sont en préparation. Donc tout un secteur extrêmement dynamique qui permet en effet de donner accès au texte et d'avoir l'impression de rentrer dans la familiarité de la langue et des notions des réalia. Et donc, vous avez ici, autour de vous, deux jeunes auteurs que l'on va maintenant présenter aussi et qui ont contribué à l'écriture de ce Psyché et Cupido. Alors, je m'adresse à Adrien tout d'abord parce que c'est vous qui coordonnez un atelier d'écriture. Et ça aussi, ça fait partie des innovations que préparent les Belles Lettres pour amener de plus en plus de jeunes au contact de ces grands auteurs. Alors, Adrien, vous avez beaucoup de casquettes. Vous préparez à l'agrégation, en dehors, je ne parle même pas des diplômes que vous avez en lettres classiques, mais vous préparez à l'agrégation, disais-je, et puis vous animez donc un atelier d'écriture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cet atelier d'écriture ?
Oui, alors on peut déjà peut-être commencer par donner son nom. Il s'appelle Scribamus. On a choisi un subjonctif en latin. L'idée, c'est écrivons. C'était pour inciter donc à une écriture collective et plurielle. Cet atelier d'écriture, donc c'est moi qui en ai eu l'idée. Je l'ai proposé à Laure de Chantal, qui l'a évidemment validé avec beaucoup d'enthousiasme. Et à mes côtés, donc Dorian Flores, qui travaille pour La Vie des Classiques et qui participe à l'atelier d'écriture en étant lui-même toujours étudiant. L'idée de cet atelier d'écriture, c'était de permettre à des étudiants, pour le moment les anciens miens, de pouvoir s'exercer à l'écriture, aussi bien en français qu'en latin, en fait c'est concomitant, pour être eux-mêmes des passeurs de la langue latine, de la langue grecque, hein, puisque on a peut-être un projet de continuation en grec, des cultures anciennes, que ce soit sur le plan de la grammaire, du vocabulaire, de l'étymologie, de la mythologie. Et donc, pour organiser cet atelier, nous nous retrouvons toutes les semaines, à raison en général d'une heure, et de manière comme ça, concomitante, enfin en tout cas c'est comme ça que ça a commencé, hein, pendant les premières séances, on se réunissait vraiment, on se disait bon alors il faudrait que nous disions ceci, quelqu'un faisait une proposition, on revenait dessus, parfois je dirais presque que le plus souvent la dynamique la plus évidente c'est de commencer par le français, parce que c'est évidemment pour des étudiants ce qui vient en premier, mais parfois il arrive très régulièrement que pour l'un d'entre eux, c'est une structure latine qui vienne, donc on reçoit la structure latine, on l'examine, on voit comment on peut modeler le français par rapport au latin, et donc il y a une dynamique d'écriture comme ça dans les deux langues qui s'opère petit à petit. Alors je vous dis qu'on a commencé comme ça au début avec une dynamique vraiment collective.
Et ça fait à peu près un an et demi, hein, vous m'avez dit que vous aviez commencé cet atelier, c'est ça ?
On a fait une première saison au cours de l'année universitaire passée et le fruit en a été Psyché et Cupido. Et cette année, donc, nous avons refait une nouvelle session autour de la figure du peintre Appel. Et donc, voilà, il y aura un manuscrit qui sera préparé. On en dira plus le temps venu. En tout cas, au début, pour Psyché et l'amour, on s'est rendu compte qu'écrire vraiment comme ça, tous dans la même visioconférence, c'était compliqué et ça prenait beaucoup de temps. Donc petit à petit, on a réparti les tâches, telle personne s'occupe de ceci, telle personne s'occupe de cela. Et après, en fait, on met en commun les différents éléments qu'on a récoltés et on lisse comme ça, on polie ensemble le contenu apporté par chacun des individus pour arriver à une écriture commune qui tienne compte des propositions de chacun. Et c'est comme ça que s'est organisé notre Psyché et Cupido.
Alors, on va marquer une petite pause musicale et on a encore beaucoup de choses à se dire dans la deuxième partie de l'émission. Mais justement, j'aimerais vous faire entendre un poème symphonique qui, comme par hasard, s'appelle Psyché et Cupido. C'est César Franck. Vous l'écoutez, on se retrouve tout de suite après. Donc, Antiquissimo, deuxième partie de cette émission chorale consacrée à un travail vraiment innovant sur un livre qui s'appelle donc Psyché et Cupido, Psyché et l'amour. Au-delà des principes que nous avons énoncés dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire comment est conçue la collection et pourquoi, nous rentrons là dans le vif du sujet avec cet atelier d'écriture très original dont parlait à l'instant Adrien Bresson. Alors, combien d'élèves, et là peut-être que c'est Dorian qui pourrait assumer la partie élève justement, combien d'élèves sont concernés par cet atelier avant qu'on ne rentre dans le mythe proprement dit de Psyché?
Alors là, dans le noyau fort, disons, de l'atelier, nous sommes actuellement, donc l'an dernier, nous étions finalement 3 étudiants et étudiantes, donc Armand Audin, Clara Marquet et moi-même, et cette année nous avons été rejoints par une 4e étudiante pour l'écriture donc du second volume. Mais donc voilà, pour le premier volume, nous étions trois à se réunir toutes les semaines avec chacun, comme le disait Adrien, des tâches respectives. Et aussi donc sous la coordination de Florence Garambois-Vasquez, qui est professeure de langues et littérature latine à l'Université de Saint-Étienne et qui aussi nous apportait son regard scientifique sur ce que nous écrivions, à la fois tant au niveau du latin qu'au niveau de tous les enrichissements culturels, civilisationnels et grammaticaux que nous avons également écrits pour accompagner les différents textes et les différents chapitres de notre histoire.
Avec Florence, si je peux juste ajouter un point, on a un regard assez complémentaire, c'est-à-dire que moi j'assume peut-être plutôt la partie grammaticale, et Florence Garambois, avec la maîtrise qui est bien plus grande que la mienne du latin, puisqu'elle, ça fait 20 ans qu'elle est professeure des universités, donc elle nous apporte plutôt des éclairages sur la civilisation ou sur la fréquence d'emploi de tel mot chez tel auteur, ce qui nous permet aussi d'avoir un bagage culturel et stylistique afin de savoir un peu à quel emploi on se livre pour un mot en particulier. Donc voilà, on a une répartition des rôles assez stricte entre elle et moi, et c'est un dialogue qui est assez fructueux, je crois, pour les étudiants.
Absolument.
Alors donc, justement, vous avez devancé une de mes questions, mais je vais quand même la reformuler. C'est-à-dire que, est-ce que c'est facile de travailler donc à 5 et peut-être à 6, puisque vous aviez annoncé l'arrivée de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est commode de travailler comme ça?
Je te laisse répondre peut-être.
Oui, alors comme le disait Adrien, on a eu un moment, les premiers temps de l'atelier d'écriture donc, qui ont permis la naissance de Psyché et de Cupido. On a mis un certain temps à trouver un fonctionnement pour que tout le monde trouve sa place, pour qu'on puisse chacun à la fois s'exprimer, proposer des idées, progresser aussi. C'est l'un des enjeux vraiment de l'atelier, à la fois une progression pour les personnes qui y participent, de l'intérieur, mais aussi l'atelier étant retransmis toutes les semaines en live sur YouTube, on a aussi parfois des personnes qui se connectent et qui écrivent avec nous, entre guillemets, en faisant eux-mêmes des propositions, en suggérant des tournures grammaticales, en reprenant un petit peu les formulations ou en ajoutant également des idées.
Ça c'est formidable, c'est une interaction qui doit vraiment vous réjouir.
Absolument.
Oui, puis c'est intéressant parce que parfois, les personnes qui participent en ligne font des propositions auxquelles les étudiants n'avaient pas forcément pensé. Quand on est cloisonné dans son mode de raisonnement, parfois une interaction extérieure, ça peut être
bien
assez utile.
Alors, vous disiez cloisonné, moi je reviens à la géographie, donc vous ne vous voyez pas, vous travaillez en visio. Si, je crois savoir qu'aujourd'hui, Dorian et Adrien, vous êtes... par le hasard ou par le fatum, réunis dans la même salle. Mais d'ordinaire, vous ne vous rencontrez pas visuellement, j'allais dire.
Le plus simple, en fait, pour que tout le monde puisse être disponible à la même heure chaque semaine, c'est de partir sur une réunion en visio. Mais après, ça ne nous a pas empêchés de nous rencontrer. Enfin, comme je l'ai dit, pour la plupart, ce sont des anciens étudiants et étudiantes que j'ai eu en cours à la fac. Ce sont des gens en fait qui se sont connus, que j'ai connus, et à l'occasion de différents salons du livre qui portent sur l'Antiquité, évidemment, nous avons l'occasion de nous voir, et plusieurs fois, nous nous sommes vus en dehors du contexte de Scribamus, donc en dehors du contexte de notre atelier d'écriture, pour des moments plus conviviaux. Mais c'est vrai que d'un point de vue de commodité de travail, s'il faut que chacun ait son dictionnaire devant soi, sa grammaire, etc., finalement que chacun soit chez soi est peut-être le plus simple, et aussi d'un point de vue de répartition de la parole. Parce que vous disiez, c'est compliqué de travailler à plusieurs. Il y a une blague que je leur fais régulièrement quand on est en ligne dans l'atelier d'écriture, c'est que c'est toujours le même qu'on entend, c'est-à-dire que c'est moi. Parce que,
alors, vous, en fait, Adrien. Vous, Adrien.
Comment ?
Vous,
oui,
c'est Adrien.
Moi, Adrien.
Voilà, je précise parce que pour les auditeurs, ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc...
Oui. Hmm ? Oui, avec deux voix de garçon, ça c'est sûr. Comme il faut quelqu'un un peu pour donner le ton, pour dire bon, bah voilà, on avance, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Bon, bah, c'est vrai que j'ai ce rôle de coordonnateur aussi, mais je pense que ça se passe bien. Ils ont envie de continuer, donc j'imagine que ça ne doit pas être trop pénible.
Voilà,
de m'entendre.
c'est le bon signe. Alors d'ailleurs, il faudrait quand même que je le dise aussi. Adrien, vous avez déjà commis un petit latin avec le de bello, de bello deorum. Et puis, quant à vous, Dorian, vous avez été dans l'équipe de Grapho. J'écris en grec ancien, est-ce que je me trompe? Dans cette collection.
Enfin,
donc, vous êtes à la fois dans la partie éditorialiste et puis dans la partie créative.
Bah, de toute façon, je crois que pour l'un comme pour l'autre, ça aurait été difficile de concevoir d'écrire un petit latin collectivement et d'organiser un atelier d'écriture sans l'avoir fait soi-même avant. Enfin, voilà, en ayant l'habitude de ce fait, on acquiert la capacité à la transmettre.
Bien sûr. Alors, on a parlé du petit latin qui est effectivement la clé de tout. On n'a pas rappelé, parce que vous savez, plusieurs émissions où nous évoquons ces petits latins et ces petits grecs, qu'il y a du texte, il y a des compléments de civilisation qui rythment, qui scandent le texte lui-même. Et la deuxième partie, après cette partie bilingue, il y a une partie au contraire monolingue, où là, il y a tout un appareil lexical, grammatical qui est donné, de sorte que ça ne s'adresse pas qu'à des professeurs, ces livres, et à des élèves, ça s'adresse à tout le monde. Mais ça facilite le travail du professeur. Je ne saurais trop leur recommander d'utiliser ces ouvrages. Une question que je n'ai pas posée avant qu'on parle quand même de Psyché, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Une question que je n'ai pas posée, pourquoi dites-vous que ce volume-là est destiné à un niveau avancé?
Tu veux répondre?
Alors, tu sais qui?
Niveau avancé parce que...
C'est Dorian, là.
C'est Dorian, absolument. Oui. La manière dont on l'a pensé, c'est vraiment, si vous voulez, l'adaptation, entre guillemets, simplifiée du récit, notamment, que nous en fait Apulée dans ses métamorphoses.
Oui.
Du récit, donc, d'Eros et Psyché. Et nous l'avons, entre guillemets, étiqueté, avancé par la complexité grammaticale de certaines phrases, de certaines structures. Voilà, dans la mesure où, par exemple, ça ne serait pas adapté, à mon sens, à quelqu'un qui fait du latin depuis un ou deux ans, puisqu'il va rencontrer des formes verbales, des tournures syntaxiques, etc., qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, ou du moins qu'il rencontrera plus tard dans son apprentissage.
Il y a quand même du latin de haute volée d'un point de vue structure grammaticale dans ce petit latin. Après, en fait, les étiquettes avancées, débutants, confirmées, portent surtout sur la difficulté de la langue latine si finalement on part d'un prérequis qui serait « j'accède directement au texte unilingue ». Le texte qu'on a écrit, il est quand même littérairement développé de telle sorte que quelqu'un qui, malgré tout, s'il n'avait pas le niveau avancé, pourrait quand même le lire et, en tout cas pour l'unilingue, arriver à retracer le cheminement, puisqu'on est quand même deux enseignants à encadrer l'atelier, donc on a une visée pédagogique aussi. Donc la partie bilingue, est-ce qu'elle est véritablement avancée? Je ne sais pas. L'étiquette, pour nous en tout cas, elle porte surtout sur l'unilingue et les éclairages grammaticaux qui s'adressent à des gens qui ont déjà un niveau assez, assez avancé en latin. Et encore une fois, l'histoire est vraiment accessible à tous.
Voilà.
Et sans parler de la partie juste en français qui peut être accessible, ben voilà, si vous voulez connaître l'histoire de Psyché sans lire toute la traduction qu'il y a chez Apulée, qui est quand même un assez gros morceau, ou sans lire La Fontaine avec toute la beauté de la langue, mais aussi les clichés qu'il peut y avoir. Ce livre est le plus récent, en fait, où vous avez, oui, où vous avez tout, et vraiment en mettant en avant le personnage de Psyché.
Alors justement, plus... comme je vous coupe la parole, je suis désolée parce qu'il nous reste très peu de temps et je voudrais, en réalité, il nous reste une petite minute et je voudrais quand même que vous me disiez pourquoi vous aviez choisi Psyché, pourquoi Psyché et Cupido. Alors attention, une minute, c'est super dur hein, ce que je vous demande.
Oui, c'est mon choix en fait, hein, donc il va falloir que je réponde moi-même.
Donc c'est Adrien c'est Adrien qui parle.
Je voulais absolument qu'on écrive un conte parce que je voulais quelque chose qui puisse avoir un aspect didactique de A à Z. Et donc l'intérêt du conte, c'est qu'il prodigue un enseignement. Et l'histoire de Psyché m'a semblé idéale parce qu'elle nous permettait de partir finalement d'un ensemble latin existant chez Apulée, de pouvoir comparer ce tout latin existant à plusieurs sources françaises. Laure, vous avez parlé de La Fontaine, mais on pourrait également citer Molière, puisqu'on s'en est inspiré dans une comédie-ballet. Et donc voilà, ça permettait de mener une réflexion à la fois sur l'organisation en français et en latin, en partant de sources existantes, ce qui permettait également de guider les étudiants pour cette première année d'écriture. Donc d'un point de vue de source, c'était idéal. Et en même temps, cette histoire, voilà...
Ouais, est... Un mythe à revisiter sans arrêt. Donc le temps est déjà écoulé. Je vous remercie. Merci beaucoup tous les trois parce que je pense que vous avez donné envie de retourner connaître l'histoire de Psyché et Cupido. Merci beaucoup et bravo.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.